d'Afrique.
Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le mercredi 22 juin, au lendemain du début officiel de l'été. Et vous allez peut-être avoir envie, pourquoi pas, de vous offrir un nouveau maillot de bain au rabais.
C'est les soldes, je vais enfin pouvoir acheter des fruits de mer. Yeah! Encore mieux, je vais prendre un DVD de Christophe Lambert pour acheter le deuxième est offert. C'est les soldes, c'est les soldes, c'est les soldes, triple youpi.
Moi je prends le DVD de Christophe Lambert perso.
Moi aussi je prends.
Enfin, surtout si en solde. Le triple youpi d'Oldelaf, est-ce que vous allez connaître le même engouement?
Oui, c'est vrai qu'après des soldes diverses sous Covid, ceux d'été s'ouvrent aujourd'hui alors que l'inflation ne cesse de progresser et que le pouvoir d'achat des Français baisse.
Sans oublier la mise en cause de la surconsommation hein, qui est récurrente en ce qui concerne les soldes et les préoccupations écologiques.
Bien sûr, est-ce que les Français vont avoir envie de faire les boutiques ces 4 prochaines semaines pour profiter des soldes dans un contexte où le marché de la seconde main est en plein essor? Les soldes ont-ils encore un sens? Nous serons à 6h15 avec Elisabeth Koenig, qui est experte de la grande distribution, fondatrice du cabinet d'études de marché, Madame Benchmark. Dans l'actualité également, Julien.
À nouveau de violents orages hier soir et cette nuit avec de la grêle, notamment dans la Nièvre, Saône-et-Loire, et on parle aussi de Saint-Étienne qui a été très touché. On y revient dans une minute avec la météo d'Anissa Haddadi.
Votre invité à 6h10.
Thierry Bross, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques, alors que les pays européens se préparent à un scénario noir, celui d'un hiver sans gaz russe.
Moscou a réduit drastiquement la semaine dernière ses exportations vers l'Europe de l'Ouest.
Et pourrait couper totalement le robinet si les 27 venaient à reconnaître à l'Ukraine son statut de candidat à l'Union européenne. Le vote débutera demain. Avec donc cette question en tête, peut-on se passer dès maintenant de gaz russe? Et si oui, à quel coût? Élément de réponse donc à 6h10. On terminera l'émission avec votre partition.
Il a 20 ans et il provoque une hystérie difficilement contrôlable au sein de son public essentiellement féminin. You ain't nothing but a hound dog. Elvis Presley, son énigmatique impresario, le faiseur de roi, le colonel Parker, dans la partition à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme, soyez tous les bienvenus. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
On sort donc d'une deuxième nuit très orageuse.
Oui, nouvelle nuit très orageuse et j'ai malheureusement la lourde tâche de vous annoncer que ce mercredi sera la journée la plus orageuse de la semaine avec des vigilances qui vont encore évoluer. Pour l'instant, nous avons 9 départements vigilance orange entre la Vienne et les Landes. C'est toujours la nouvelle Aquitaine qui est touchée. Nous avons des orages actuellement sur la Nouvelle-Aquitaine qui a déjà été très touchée. Attention entre les Pays de la Loire et le Pays Basque. Pas mal de pluie ce matin. Également beaucoup de pluie entre la Méditerranée et la vallée du Rhône. Alors pour faire simple et rapide, aujourd'hui, à part la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne, les Ardennes et l'Alsace qui restent au sec, partout ailleurs, c'est une journée très agitée, très perturbée, avec des orages. C'est-à-dire que nous allons avoir des orages sur les 2/3 du pays aujourd'hui. Les orages les plus violents vont se situer entre le sud-ouest et le Lyonnais, avec de la grêle, des pluies intenses et du vent fort. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que ce sont des régions qui ont déjà été touchées. Les températures, elles commencent à baisser. On a encore 5 départements en vigilance canicule. Les températures restent au-dessus des normales. L'ambiance sera lourde encore aujourd'hui avec 34 pour Ajaccio, 32 à Lyon, 30 pour Bastia, 28 à Nice et Clermont-Ferrand, 26 à Lille et Colmar, 24 pour Bordeaux. On respire après le passage des orages, 22 à Lorient et 20 pour Cherbourg.
Merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Et à la une, un gouvernement d'union nationale pour éviter le blocage parlementaire. C'est ce qu'envisage Emmanuel Macron, selon le communiste Fabien Roussel, reçu hier à l'Élysée. Le président poursuit aujourd'hui ses consultations. Explications dans un instant. La chasse aux bonnes affaires est ouverte. Début aujourd'hui des soldes d'été. Ils tombent à pic en plein contexte de forte inflation. Reportage à suivre. Et puis, la tuile pour les couvreurs et les charpentiers. Leur téléphone n'arrête pas de sonner dans le sud-ouest après les violents épisodes de grêle. Et problème, il n'y a pas de matériaux. Nous irons à Taillon-Médoc où 80% des maisons ont été touchées.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal à 5h, c'est avec Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Un gouvernement d'union nationale pour sortir de l'impasse à l'Assemblée, est-ce la solution? C'est en tout cas ce qu'envisagerait Emmanuel Macron, qui reçoit depuis hier matin les leaders des partis politiques à l'Élysée. C'est le communiste Fabien Roussel qui l'a annoncé dans la soirée, mais pour lui, pas question.
Il cherche le moyen de mettre en œuvre donc, ou un gouvernement d'union nationale ou des majorités de projets. Je lui ai répondu sur cette question que pour notre part, nous considérons qu'il y a tellement de défiance et tellement de rejet de sa politique aujourd'hui qu'on ne pouvait pas envisager de participer à un tel gouvernement. Les Français ne le comprendraient pas. Je lui demande au contraire de nous dire ce qu'il est prêt à mettre en œuvre et ce sur quoi nous pourrions travailler ensemble. Et j'ai demandé, moi, des mesures d'urgence à mettre en œuvre concernant la hausse des salaires et sur la hausse des retraites. Et là-dessus, je suis prêt à travailler pour que tout de suite, il y ait des mesures fortes pour le pouvoir d'achat des Français. Mais participer à un gouvernement d'union nationale, c'est pas d'actualité.
Fabien Roussel, leader communiste, joint par Océane Théard. Jacques Serey, avec cette idée de gouvernement d'union nationale, on sait ce qu'Emmanuel Macron a derrière la tête ?
Eh bien, c'est un énième ballon d'essai d'Emmanuel Macron après une première journée de consultation. C'est à son dernier visiteur qu'il a fait cette confidence, le communiste Fabien Roussel. Gouvernement d'union nationale, les trois mots sont lâchés et le chef de l'État sait ce qu'ils vont provoquer dans le débat public. Avantage pour le locataire de l'Élysée. La jouer grand seigneur montrait qu'il a compris le choix des électeurs et qu'il souhaite intégrer cette nouvelle donne au point de chambouler son gouvernement. Avec cette proposition, il renvoie tout simplement ses opposants à leurs responsabilités. Alors qu'il sait pertinemment que ni les communistes, ni les socialistes ou les républicains, et encore moins les élus du Rassemblement national, n'aspirent à travailler à ses côtés. Avec une assemblée telle qu'elle est aujourd'hui, verrouillée, aucun parti de l'opposition ne souhaite être tenu pour responsable du bilan du président à l'issue des 5 prochaines années. En attendant, ce coup politique peut permettre à Emmanuel Macron d'afficher une certaine image de président volontariste, mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions à cause de ses adversaires, comme pour mieux démontrer auprès des Français l'impasse de leur vote législative, la première étape d'un cheminement qui ne peut conduire qu'à la dissolution de l'Assemblée.
Merci Jacques Serey du service politique d'Europe 1.
C'est le grand jour si vous devez refaire votre garde-robe en vue de l'été ou celle de vos enfants pour la rentrée. Coup d'envoi des soldes d'été.
Ils dureront jusqu'au 19 juillet pour la grande majorité d'entre nous, mais en cette période où tout augmente et avec des surplus de stock dans les magasins allant jusqu'à 30% selon les indépendants de la Fédération nationale de l'habillement, peut-on s'attendre à faire de vraies bonnes affaires ? Les commerçants sont-ils prêts pour le grand rush ? Noah Moussa les a rencontrés pour Europe 1.
Derrière les portes fermées de son magasin de prêt-à-porter, Olivia s'active pour boucler les derniers préparatifs avant le coup d'envoi des soldes.
Et tout ça, oui, plus les deux robes machin et tout ça.
Pour cette gérante, ce sont des soldes particulièrement incertains cette année. L'inflation pourrait empêcher quelques clients de profiter de cette période de promotion.
Une robe qui fait 39€ prix de base. Ce petit achat coup de cœur qui, à la base, n'est pas très cher, c'est un peu plus rarifié pendant cette saison. L'inflation a fait que, forcément, les gens réfléchissent peut-être un peu plus.
Sur le trottoir d'en face, Virginie est prête, elle aussi. Et contrairement à d'autres boutiques, elle n'a pas eu de problème d'approvisionnement.
On a tout reçu, ça ne vient pas de très loin, donc on a eu moins de problèmes que ceux qui font venir de Chine ou d'Asie. Ça a été plus compliqué et plus long.
Selon l'Alliance du commerce, c'est surtout sur les collections de cet automne et de cet hiver que se feront sentir les effets de l'inflation avec des hausses de prix qui pourraient aller jusqu'à 10% dans les rayons.
Noah Moussa, on l'aura donc compris, hein, c'est le moment d'en profiter.
On peut donc toujours trouver des vêtements. En revanche, trouver des couvreurs à des charpentiers de libre, ça c'est une autre histoire.
Oui, hein, plus de bois, plus de tuiles. Alors pour rénover cette voiture, il faut s'armer de patience et sortir le chéquier. Mauvaise nouvelle notamment après les violents épisodes de grêle qui ont fait beaucoup de dégâts avant-hier soir dans le sud-ouest. À Taillan-Médoc, par exemple, 80% des maisons ont été endommagées, selon la maire de la commune. Et les couvreurs croulent sous les demandes. Le reportage de notre correspondant Stéphane Place.
C'est avec l'aide de son père, perché sur le toit qui a été transpercé par les grêlons, que Geoffrey fixe une énorme bâche. Pas le choix, explique ce trentenaire qui habite ici dans le bourg du Taillan-Médoc. Au lendemain de cet orage dévastateur, c'est le seul moyen de préserver sa maison.
Il n'y a pas de tuiles, des amis qui sont dans le métier, ils n'ont rien dispo. Regardez, même le voisin qui est charpentier, il n'en a pas, il bâche. C'est très compliqué l'approvisionnement. Ouais.
Et là, la bâche, vous avez trouvé facilement ?
Non, c'est mon papa qui a pris les deux dernières bâches qu'il y avait. Je vais pouvoir couvrir la charpente. Toutes les tuiles sont mortes.
Des bâches dénichées in extremis en attendant l'intervention d'un couvreur. Des professionnels sollicités de toutes parts. Alors malheureusement, prévient Axel à la tête de l'entreprise Dion, les sinistrés vont devoir s'armer de patience, d'autant que les approvisionnements en tuiles étaient déjà très compliqués avant cette catastrophe.
On était déjà en pénurie de tuiles, donc je ne sais pas comment on va faire. Déjà, il fallait les commander 2 mois à l'avance, donc là, ça va être n'importe quoi, quoi. Les gens vont rester bâchés longtemps, quoi.
Vous avez une idée du nombre de toits là, qui sont à refaire ?
Bah là, au Taillan, c'est quasiment tous. Hein. Du haut, on voit, il y a des trous partout, des milliers, je pense. Hein. On avait déjà 6 mois de boulot, mais là, avec ça...
Ça n'arrête pas le téléphone, là.
Ah oui, vous voyez, je peux même plus décrocher, parce que je ne pourrais pas contenter tout le monde. Donc...
La double peine pour des sinistrés qui risquent de devoir attendre plusieurs mois avant de voir leur toit enfin réparé. Le Taillant Médoc, Stéphane Place, Europe 1.
Et ce matin, 15 départements sont toujours en vigilance orange, dont 9 pour orage sur le sud-ouest. Pour les producteurs, une nouvelle fois impactés, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a promis hier la solidarité nationale et des dispositifs de prévention.
Aux États-Unis, une première cette nuit depuis des décennies, sénateurs démocrates et républicains ont proposé une loi pour limiter les violences par armes à feu.
Oui, hein, après la série de fusillades qui a connu le pays ces dernières semaines, à l'image de celle d'Uvalde au Texas, qui a coûté la vie à 19 enfants et 2 enseignantes. Dans les 80 pages de ce texte, on retrouve par exemple la possibilité de retirer aux personnes jugées dangereuses les armes qu'elles possèdent, ou encore un renforcement de la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les 18-21 ans.
Si vous avez des acouphènes ce matin, c'est normal puisqu'hier soir c'était la 40e édition de la fête de la musique.
Célébrée dans toute la France, rock, pop, rap, tous les styles représentés dans de nombreuses villes. Cette année, vous êtes nombreux à avoir passé la soirée dehors pour en profiter entre amis, en couple, en famille ou même seul. Illustration dans les rues de Paris avec Guillaume Dominguez.
Sur les quais de Seine, face à un DJ qui a posé ses platines sur une planche de bois, Ambroise et Alexandre profitent, une bière à la main. À 24 et 25 ans, pour eux, la fête de la musique représente déjà une tradition.
On est là tous les ans, c'est particulier parce qu'il y a de l'ambiance, il y a beaucoup plus de monde, il y a de la musique dans la rue. Donc c'est pas comme tous les soirs où on peut sortir, c'est ce qui fait un peu le charme de cette soirée.
C'est une tradition chaque année, pas au même niveau que Noël ou quelque chose comme ça, mais chaque année on va continuer de la célébrer, c'est toujours un bon moment entre collègues.
Un peu plus loin, sur l'île Saint-Louis, Zachary, lui, regarde une famille qui donne un concert. Il se souvient de ses premières fêtes de la musique il y a 20 ans.
Souvenir de la période étudiante avec les amis, c'était vraiment gravé dans l'agenda. Le 21 juin, fallait être là pour profiter. Il y avait toujours des belles surprises.
Elle est encore dans l'agenda cette année encore ?
Toujours, toujours et pour longtemps je pense.
Ilan est venu danser sur du hip-hop avec un groupe d'amis, ravi de refaire la fête comme avant, sans contraintes sanitaires.
Forcément, ça fait beaucoup de bien, plus de masques, beaucoup de gens sur Paris, c'est une très belle ambiance, ça nous avait manqué.
Ilan et son groupe comptent bien en profiter, il m'a dit vouloir danser jusqu'au lever du jour.
Guillaume Dominguez.
Et le lever du jour, c'est maintenant, ouais. 5h09 sur Europe 1. Merci beaucoup pour ce journal, Alban Le Prince.
On passe aux courses et c'est le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Toulouse et mon pari gagnant sera le 706 All-in-One CJ. Certes, il devra rendre 25 mètres à 5 de ses adversaires, mais ce trotteur doué et en constant progrès n'a certainement pas encore les gains en rapport avec ses moyens. Irréprochable depuis le début de l'année, n'ayant jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 7 dernières courses, ayant des références solides sur des parcours corde à droite similaires à celui qu'il empruntera cet après-midi sur l'hippodrome de Toulouse, il peut être considéré ici une nouvelle fois comme une certitude à l'arrivée. Alors notez bien, pour Toulouse, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 6, All-in-One CJ.
Merci beaucoup Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure avec les pronostics du Quintet. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Et Martin Lange, évidemment, sur Europe 1 aussi pour le pressing. Bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin. On commence avec les unes de vos journaux et cette question posée par le Figaro. L'introuvable compromis interroge le quotidien avec pour illustration les chefs de parti qui ont été reçus hier par l'Elysée pour tenter de résoudre le blocage politique à l'Assemblée. Aucun consensus n'a pour l'instant été dégagé. Voilà pourquoi Macron est prêt à la stratégie du coup par coup. C'est le titre à la une de l'Opinion. L'absence de majorité va contraindre l'exécutif à chercher des soutiens texte par texte, à droite comme à gauche. Fini la rigolade donc au Palais Bourbon. Fini aussi les paillettes au PSG. Et c'est son président qui le dit aux Parisiens aujourd'hui en France. Nasser Al-Khelaïfi veut moins de bling-bling et plus de discipline dans son équipe. On lui souhaite bon courage. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous.
C'est un étrange navire laboratoire qui va faire son apparition dans l'Arctique. Cette base polaire qui va dériver sur la banquise et le nouveau projet de la fondation Tara Océan, c'est-à-dire dans le Figaro, sa mission, observer les effets du changement climatique au pôle Nord. Ce navire baptisé Polar Station est le petit frère, si je puis dire, de Polar Pod, la plateforme océanographique habitée de l'explorateur Jean-Louis Etienne, un navire vertical révolutionnaire qui va lui dériver dès 2024 tout autour du pôle Sud. Alors au Nord, la première mission de Polar Station devrait débuter Un an plus tard, chaque mission durera 500 jours. Elles vont se succéder les unes derrière les autres. Et en tout, ce projet va s'étaler sur 20 ans. Un voyage au long cours pour suivre l'évolution du climat et de la biodiversité emprisonnée dans les glaces l'hiver. Alors, à quoi il ressemble ce navire du futur? C'est vrai qu'il fait un petit peu rêver parce qu'il est sphérique avec une coque en aluminium. Elle est bien résistante et c'est un peu nécessaire pour ne pas céder au moment du gel des glaces lorsque les températures extérieures vont également tomber à moins 52 degrés. On ne va pas y passer nos vacances. Petite visite à l'intérieur maintenant, et c'est plutôt pas mal bien installé. Polar Station bénéficie d'une surface de 400 mètres carrés, dispose de 4 étages. La salle des machines, l'étage dédié aux expériences scientifiques, une salle de travail commune, et puis bien sûr l'espace couchette. 12 personnes pourront y séjourner l'hiver, la moitié seront des scientifiques. Alors prix de cette sentinelle du changement climatique, 18 millions d'euros. L'État français y participe à hauteur de 15 millions. Le reste sera apporté par des partenaires comme la Fondation Agnès B ou le prince Albert II de Monaco. 20 ans d'observation. C'est long et c'est nécessaire d'après les climatologues qui estiment que le réchauffement de la planète sera plus fort en Arctique. La hausse des températures y est deux fois supérieure à celle de l'ensemble du globe. Des prélèvements seront réalisés jusqu'à 400 mètres de profondeur et il est également envisagé de mesurer la présence de polluants. Voilà cette station de recherche lancée par la Fondation Tara Océan au pôle Nord et elle va y rester 20 ans. C'est dans le Figaro.
Merci beaucoup Ombline. Martin, on
oui,
vous écoute.
Avec un des grands mystères de l'histoire qui vient peut-être d'être résolu. Vous vous souvenez de la bataille de Waterloo? C'était il y a 207 ans, le 18 juin 1815.
Enfin, se souvient, on n'y était pas.
On n'y était pas, non, effectivement. C'est la bataille qui a mis fin au règne de Napoléon Ier, connu aussi pour être l'une des plus meurtrières de l'histoire. 40 000 morts, dont près de 25 000 Français. Assez probablement pour transformer la petite ville belge en un véritable cimetière à ciel ouvert. Eh bien, pas du tout. À l'heure où je vous parle, les archéologues n'ont retrouvé qu'un squelette entier. Mais où sont donc passés les plus de 30 000 autres? Des cadavres, ça ne disparaît pas comme ça, surtout en temps de guerre. Eh bien, Tony Pollard, un historien écossais, a peut-être élucidé ce mystère. Dans un article publié dans le Journal of Conflict of Archaeology, il avance que les corps des soldats n'ont pas été retrouvés pour une bonne raison. Ils ont servi pour fabriquer de l'engrais, du compost, comme vous faites peut-être sur votre balcon avec vos déjeuners.
Ah, bon petit déjeuner à tous. Comment il a pu arriver à cette conclusion?
Eh bien, il a repris des dizaines de témoignages, des dessins, des gravures de l'époque, et il est formel, il y a bien eu des fosses communes autour des champs de bataille, des fosses dans lesquelles les corps ont été enfouis. Mais alors, pourquoi on ne les retrouve pas aujourd'hui? Une seule hypothèse possible, ils ont été déterrés. Au 19e siècle, il était assez courant de piller des ossements humains pour les revendre sous forme de farine d'os, un engrais connu pour son efficacité. Un charnier comme celui de Waterloo représentait donc une véritable mine d'or. Un article du London Observer qui date de 1822, seulement 7 ans après la bataille, témoigne de l'ampleur de ces marchés d'os. Dans le port de Hull, c'est à l'est de l'Angleterre, des millions d'os humains ont été importés du continent européen, écrit le journal, et nul doute que ces marchands de bord ont dû labourer Waterloo et ses charniers géants. Le mystère des cadavres disparus de la bataille de Waterloo peut être élucidé, c'est à lire sur Slate.
Ah, j'étais pas prêt pour ça.
Tout que les sujets s'y prêtaient vraiment bien.
Allez, chouette. 30 000 humains compostés. Merci beaucoup, Martin. C'est une jolie histoire, moi, que je m'apprête à vous raconter et que vous pourrez découvrir ce matin dans les pages du Parisien. L'histoire de Mérib, un poulain qui a fait l'objet d'un formidable élan de solidarité. Il faut le sauver, voilà ce qu'a dit sa propriétaire il y a quelques jours en franchissant alarmée les portes de l'hôpital des Équidés situé à Maison-Alfort. À ses côtés, un poulain âgé d'une semaine et au poids alarmant, il ne pesait que 28 kilos alors qu'il aurait dû en faire près du double, raconte l'une des vétérinaires qui l'a prise en charge. Pas de maladie, pas d'infection, ni de malformation. Sur le papier, Mérib, c'est son petit nom, va très bien, si ce n'est que sa mère, une jument de race pur sang, l'a rejetée sitôt mise au monde. Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive, et c'est surtout dramatique pour le poulain concerné, car à cet âge-là, il a besoin de téter une à deux fois par heure, de jour comme de nuit, impossible donc en cas de rejet par la mère. Parfois, certaines juments ne comprennent tout simplement pas ce qui leur arrive, ce qui leur est demandé, explique la vétérinaire qui s'empresse de conseiller à la propriétaire de chercher donc à Mérib une jument adoptive. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, car une adoption, même en urgence, ça ne s'improvise pas. Il y a tout un tas de règles précises à respecter. La première étant que la jument soit en capacité de nourrir le poulain, bien souvent parce qu'elle a elle-même perdu un poulain récemment ou une pouliche récemment. Une première mère adoptive est donc rapidement trouvée, mais au bout de quelques minutes passées dans le même box, il faut se rendre à l'évidence, le lien ne se crée pas, c'est un échec, il faut donc recommencer. Et c'est là que le destin s'en mêle, car au même moment, une certaine Delphine lance un appel à l'aide sur Facebook. Sa jument est depuis quelques jours complètement abattue et pour cause, elle vient de perdre une pouliche. Elle a un caractère en or, elle est très sensible, je me devais donc de l'aider, témoigne l'éleveuse dont le message sur internet est vite repéré par les vétérinaires s'occupant de Mérib le poulain. Le contact s'établit tôt le matin et le soir même, Delphine arrive à Maison Alfort en compagnie de sa jument après un long trajet où s'est mêlée excitation et appréhension. D'autant que le verdict sera quasi immédiat. Ça match ou ça match pas, c'est comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Enfin si, on peut quand même faire pencher un peu la balance d'un côté ou de l'autre. L'éleveuse le sait, c'est pourquoi lors de la mise bas de sa jument, elle a eu le réflexe de conserver le plein sata. C'est ce qui nous a permis de badigeonner le poulain avec pour qu'il s'imprègne de son odeur, décrit la vétérinaire. Quant à la jument, elle est stimulée avec un massage du col pour provoquer une décharge hormonale et la remettre, je cite, en condition. Et au vu de ce qui s'en est suivi, il n'est même pas certain que ce drôle de rituel ait été indispensable. Ça a été tout de suite le grand amour, raconte la vétérinaire. Elle l'avait à peine vu qu'elle s'est mise à l'appeler, à le lécher, se souvient avec émotion l'éleveuse. Elle a commencé à hennir doucement et le poulain est venu naturellement se nourrir au pis. Mérib est donc sauvé. Cela fait une semaine maintenant qu'il ne lâche plus d'un sabot sa maman adoptive. Le poulain abandonné a retrouvé une mère grâce à l'école vétérinaire, c'est-à-dire dans le Parisien.
C'est effectivement une très très belle histoire. Merci beaucoup Julien, merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, soyez tous les bienvenus. Le journal permanent, Alban Leprince.
Deuxième jour aujourd'hui de consultation pour Emmanuel Macron qui reçoit les leaders de partis politiques à l'Élysée après avoir perdu sa majorité absolue à l'Assemblée. Selon le communiste Fabien Roussel, le président envisagerait de créer un gouvernement d'union nationale. Sorti dès le premier tour des législatives, l'ancien ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer pourrait intégrer l'université Paris-Panthéon-Assas où il a déjà enseigné. Au début de sa carrière, colère des syndicats qui estiment que les procédures réglementaires ne sont pas respectées. Clap de fin pour le burkini dans les piscines municipales grenobloises. Le Conseil d'État a tranché hier en confirmant la décision du tribunal administratif de Grenoble qui estimait qu'autoriser le burkini ne visait qu'à satisfaire une revendication de nature religieuse. Et puis à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, une enquête ouverte après la mort d'un bébé de 1 an laissé seul dans une voiture en plein soleil. Lundi, la procureure de la République précise que les parents ont été entendus.
Europe 1. On met en lumière chaque matin celles et ceux qui s'engagent. Ce sont les initiatives en France et elles nous emmènent ce matin dans la région de Mâcon.
Bonjour Grégory Bonin.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Mimi Piu Piu et c'est sous cette marque que vous commercialisez depuis peu la toute première tétine pour bébé réutilisable. Expliquez-nous.
Oui, donc c'est la première sucette qui permet de séparer en fait la partie en silicone du reste de la sucette. En fait, ça a été vraiment l'idée de faire quelque chose de plus écologique. On réduit à peu près 60% de déchets plastiques comme ça. Et également quelque chose de plus hygiénique, vu qu'on peut nettoyer l'intérieur intégralement. Ce n'était pas possible jusqu'à maintenant.
Donc en fait, avec votre tétine, on ne fait que remplacer ce qu'on appelle la tétrelle en caoutchouc ?
Exactement, avec un système sécurisé à clé qui permet de séparer ces deux éléments. Ouais.
Et tout passe au lave-vaisselle, hein ?
Oui, ça a été vraiment quelque chose de très important pour moi. Ça a été de faire un produit aussi qui soit extrêmement simple d'utilisation, sécurisé, mais très simple, comme vous l'avez dit, par exemple, pour nettoyer intégralement le lave-vaisselle et stériliser micro-ondes ou à bouillir.
C'est à force d'acheter des tétines pour vos propres enfants que vous est venue cette idée ?
Oui, tout à fait. C'est avec mes enfants, je les voyais utiliser ces tonnes de sucettes et je voyais tout ce plastique en fait qui était jeté à la poubelle, sans parler des emballages. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'existe pas quelque chose où finalement on remplace que le nécessaire ?
Je ne me rends pas compte, mais une tétine classique, c'est-à-dire non réutilisable, ça a une durée de vie moyenne de combien de temps ?
Alors normalement, sur toute sucette, c'est noté qu'il faut les remplacer une fois par mois. Après, on pousse des fois toujours un petit peu plus, mais il faut faire attention, c'est surtout au niveau de sécurité pour les enfants. Mais normalement, c'est un mois et demi, il faut les remplacer. Hein.
Alors ça, c'est le constat, vous l'avez fait il y a quelques années, et ensuite il a fallu développer cette tétine réutilisable, ce qui, je crois, n'a pas été simple.
Oui, ça a demandé 4 ans, hein, malgré tout, de recherche et de développement, de tests, d'essais, pour arriver aujourd'hui à quelque chose de complet.
Parce qu'à la base, quelle était votre profession ?
Alors, à la base, j'étais fleuriste, j'avais 2 boutiques dans la région lyonnaise.
Donc rien à voir.
Rien à voir, mais ça a été une révélation justement dès que j'ai eu cette idée en voyant mes enfants les utiliser.
Et vous avez dû quitter la France pour trouver un industriel capable de développer votre idée ?
Oui, j'ai recherché dans un premier temps au niveau des industriels français sur un projet qui justement avait vraiment une demande très longue en R&D et un nombre de moules de fabrication très grand. Ça n'a pas été possible, donc j'ai recherché. Et ça a été donc la Thaïlande qui est ressortie avec un produit qui fait des produits de qualité, justement, également.
Pourquoi ça a été si long à développer ce projet ? Parce qu'une tétine, ce n'est pas si compliqué que ça, d'un point de vue technique, finalement.
Alors, c'est ce qu'on pourrait penser, effectivement, de premier abord. La seule chose, une fois qu'on met le nez dedans, on se rend compte qu'il y a des contraintes très, très, très importantes. Et surtout, avec une innovation comme je l'ai créée, qui a demandé justement pour avoir un niveau de sécurité encore supérieur aux sucettes actuelles. Et j'ai aussi, en plus des sucettes, développé tout un concept dans un coffret qui est très bien pour les coffrets de naissance ou cadeaux de naissance, où il y a tout un coffret de stérilisation également, un œuf en silicone qui permet d'insérer cette tétrelle sans avoir à la toucher avec les doigts, si on est dans un endroit où ce n'est pas très propre, par exemple.
On les trouve où, vos tétines Mimi Piu Piu ?
Alors sur mimipiupiu.fr ou .com et également chez des partenaires, c'est-à-dire sur le site, il y a également tous les points de vente qui sont disponibles. Et donc c'est les premiers points de vente et il y en a beaucoup d'autres qui sont en train d'arriver.
Ça coûte combien
en pharmacie
une tétine ?
Les tétrelles de rechange, donc mimipiupiu, c'est 3,80€. La sucette réutilisable, 11,95€. Et le coffret complet, avec 2 tétrelles également à l'intérieur, qui a 34,95€.
Allez, pour terminer, une question. Pourquoi ce nom, Mimi Piu Piu ?
Ça a été donc une petite recherche de savoir un petit peu de comment on pouvait partir sur la marque. Ça a été trouvé avec ma femme pour avoir un nom un petit peu sympa, enfantin, et qui menait très très bien avec le côté marketing de l'oiseau également. Aucune marque ne partait dans ce sens-là, dans la puriculture.
C'est réussi en tout cas. Merci beaucoup Grégory Bonin de nous avoir présenté votre tétine pour bébé réutilisable. C'est écolo, pratique et ça s'appelle donc Mimi Piu Piu. Très bonne journée
Merci.
À vous.
Merci. Merci à vous.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil à tous, bonjour. Nous sommes le mercredi 22 juin. Dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamarre, suivi du coup d'envoi des soldes d'été, c'est ce matin.
Oui, ils vont durer 4 semaines jusqu'au 19 juillet. Vous connaissez ce rituel, partir à la chasse aux bonnes affaires, même si toute l'année, désormais, les ventes privées se multiplient. Mais avec une inflation qui progresse, les inquiétudes des Français sur le pouvoir d'achat et la lutte contre la surconsommation, est-ce qu'on va avoir la tête à faire les boutiques ? On sera dans un quart d'heure avec la fondatrice de Madame Benchmark, c'est un cabinet expert de la grande distribution.
Coup d'œil ensuite sur les sorties du jour au cinéma.
Un biopic aujourd'hui sur le King Elvis avec Austin Butler et Tom Hanks, autre héros à ne pas manquer. Buzz l'éclair qui a droit à son film d'animation rien que pour lui. Laurie Chelevin nous rejoindra à 5h50.
Mais avant, c'est la météo. Et elle est très importante ce matin, Anissa Haddadi, puisque des orages éclatent encore un peu partout avec les fortes chaleurs.
Oui, on a des orages actuellement sur la Nouvelle-Aquitaine, entre les Pays de la Loire et le Pays Basque, avec pas mal d'impact de foudre. On a aussi pas mal d'orages entre la Méditerranée et la vallée du Rhône. Bref, beaucoup de régions sont confrontées à ces orages à cause des grosses chaleurs. Après le sud-ouest, après le centre-est, ces derniers jours, c'est hier la Corse qui a subi de fortes chaleurs. On a relevé 40,2 à Sarthène hier, 39,3 pour Ajaccio. Sur le continent, il a fait chaud aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup des orages, on oublie la chaleur. 35,3 degrés hier à Furst, à côté de Saint-Étienne. Donc ces épisodes de canicule sont en partie responsables des gros orages. Ce mercredi sera la journée la plus orageuse de la semaine, avec de fortes pluies, de la grêle, de grosses rafales de vent qui aujourd'hui vont toucher les 2/3 des régions. En fait, seuls les Hauts-de-France, la Normandie, le bassin parisien, l'Alsace vont rester au sec. partout ailleurs. Malheureusement, vous serez touché par des orages avec des grêlons de plus de 5 cm de diamètre. Et attention aux phénomènes tourbillonnaires type tornade qui risquent encore de se produire aujourd'hui. 34 pour Ajaccio, 32 à Marseille et Lyon, 30 à Nîmes, 27 à Paris, 26 à Mulhouse et 20 degrés pour Cherbourg.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une ce matin, la bataille du blé. Elle a commencé, plus de 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens soumis au blocus de l'armée russe. L'Europe organise la riposte. Reportage dès le début de ce journal avec notre envoyé spécial en Ukraine. Comment sortir de la crise politique? Emmanuel Macron défend l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Refus catégorique pour l'heure du Parti communiste et de la France insoumise. Et puis le foot, changement d'époque à l'Olympique lyonnais. Le club de Jean-Michel Aulas va passer sous pavillon américain.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. La Russie est-elle en train d'orchestrer une gigantesque famine dont l'Afrique serait la première victime? Cette arme, c'est le blé. Plus de 20 millions de tonnes dorment dans les silos ukrainiens en attendant de pouvoir prendre la mer. Problème, les grands ports comme Odessa, Mykolaïv ou Mariupol sont paralysés. Une seule solution dès lors, passer par la route. Des centaines de camions se relaient depuis quelques jours. Reportage au cœur de ce convoi des céréales de notre envoyé spécial Nicolas Tonev.
Des centaines, tous identiques, vrombissants. Une lourde semi-remorque métallique bâchée, attelée au tracteur. Et un même trajet du sud et des ports devenus inutiles vers le nord-ouest du pays, cette nouvelle porte de l'exportation. Sacha est en pause, affalé sur son volant.
La semaine dernière, j'ai fait deux allers-retours de la région de Mykolaïv vers Lvov.
Combien d'heures de route?
Il y a 1000 km à faire, ça fait au minimum 12 à 13 heures.
Combien de tonnes transportées à chaque fois?
25 tonnes du tournesol. Ça part ensuite vers la Pologne, la Roumanie, toujours en camion ou alors en train, mais c'est transvasé dans de très gros sacs pour le transport. Moi, j'amène ça à Ujvarot, à la frontière polonaise, et c'est là que la marchandise est conditionnée dans de très grands sacs.
25 tonnes par 25 tonnes, de petites cuillères comparées aux milliers de mètres cubes d'un cargo céréalier. Mais les chauffeurs se réjouissent, ils aident le pays. Et cette exportation forcée qui inonde les routes de camions leur remplit aussi les poches.
Le prix du transport a augmenté de 4 à 5 fois. On gagne bien là avec ce genre de transport. Avant, pour un trajet, je prenais environ 160 euros. Maintenant, c'est au moins le double. Avec un retour plein, je ramène 4 fois plus d'argent.
Pause terminée lors du départ pour Sacha. Seul point négatif pour les routiers, le prix du carburant a plus que doublé avec la guerre. Sur la route de Mykolaïv, Nicolas Tonnerre, Europe 1.
La guerre du blé et la guerre tout court, 15 morts dont un enfant de 8 ans ont été tués lors du bombardement de la ville de Kharkiv.
Comment sortir de la crise politique? Emmanuel Macron veut constituer un gouvernement d'union nationale, proposition rejetée par une partie de la gauche.
A commencer par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon refuse d'en entendre parler et demande à la première ministre Elisabeth Borne de s'en remettre au vote de confiance des députés. Fin de non-recevoir également de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste a été reçu hier soir à l'Élysée et un constat, Arthur Delaborde, le rapprochement est impossible.
Oui, augmentation du SMIC à 1500 euros, semaine de 32 heures, nationalisation d'entreprise. Les mesures souhaitées par Fabien Roussel sont totalement à l'opposé du projet sur lequel Emmanuel Macron a été élu. Sur les retraites, par exemple, lorsqu'il était candidat à la présidentielle, le député du Nord défendait bec et ongle un départ à 60 ans à taux plein, là où le président de la République a lui fixé comme priorité de repousser l'âge légal à 65 ans. Sur la fiscalité, un consensus paraît également impossible, en témoigne la volonté de Fabien Roussel de rétablir l'ISF en triplant son montant. L'impôt sur la fortune supprimé dès 2018 par Emmanuel Macron. Leurs visions sont aussi radicalement éloignées en matière sociale. On peut citer notamment la question du RSA que le communiste veut élargir en moins de 25 ans, quand le chef de l'État souhaite au contraire conditionner son versement à un minimum d'activité de 15 à 20 heures hebdomadaires. Et si avec de la bonne volonté, on peut imaginer quelques points d'accord ponctuels sur des thèmes comme la lutte contre l'inflation ou sur le nucléaire, le fossé idéologique est tel qu'un gouvernement d'union nationale avec Fabien Roussel serait sans doute dépourvu de toute cohérence politique.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Les consultations, discussions avec les chefs de parti doivent encore se poursuivre aujourd'hui à l'Élysée.
À l'Assemblée, on prépare la rentrée des classes parlementaires.
Six macronistes sont candidats pour remplacer Richard Ferrand au perchoir, le prestigieux poste de président du Palais Bourbon. Désignation également dans les rangs de l'opposition des futurs chefs de file. C'est déjà fait pour Mathilde Panot, réélue présidente du groupe LFI. Marine Le Pen devrait prendre la tête du Rassemblement National. L'ex-candidate à la présidentielle est seule en piste.
La France sort lentement de la canicule, on en parlait à l'instant avec Anissa Haddadi, mais les orages, eux, ont succédé à fortes chaleurs et continuent de faire des dégâts, notamment dans le centre et l'est du pays.
Ouais, dégâts matériels parfois très importants, comme à Digoin en Saône-et-Loire. Le maire parle de véritables catastrophes. Orages violents aussi en Rhône-Alpes. 15 départements sont toujours en vigilance orange, dont 9 pour orages dans le sud-ouest. Le nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, promet que la solidarité nationale jouera. Il annonce également la mise en place de dispositifs de prévention.
Un mauvais chiffre à présent, un mauvais chiffre qui est tombé avec un peu la stupeur hier. Le nombre de morts sur les routes est reparti à la hausse. Les deux roues sont particulièrement exposées. La gendarmerie passe donc à l'action.
293 tués en mai, un bond de 21% par rapport à 2019, c'est-à-dire avant la pandémie. Le chiffre le plus inquiétant concerne effectivement les deux roues dont le nombre de morts, lui, a été multiplié par 3. Dans les Alpes-Maritimes, l'escadron départemental de sécurité routière organise des journées de sensibilisation au risque. Rouler à vélo ou en moto, eh bien ça réclame quelques notions trop souvent négligées. Reportage de notre correspondant sur la Côte d'Azur, Frédéric Michel.
Donc là, le premier atelier, c'est travailler sa trajectoire.
Encadré par des motards de la gendarmerie et des bénévoles pendant toute une journée, une quarantaine de motocyclistes multiplient les exercices. D'abord sur un parking public, puis en situation réelle sur la route. Le major Eric Panier commande la brigade de gendarmerie motorisée de Nice.
Lorsque vous avez des intersections, c'est d'aller voir si on a bien été perçu. Les dépassements, je mets mon clignotant. On insiste sur la vitesse parce que dans la globalité des accidents, bien souvent la vitesse est en cause. On rentre trop rapidement dans un virage. Pour en sortir, ça devient plus compliqué.
Le lieutenant-colonel Renaud Ben commande l'escadron de sécurité routière des Alpes-Maritimes.
L'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier un public demandeur des bonnes pratiques des motocyclistes de la gendarmerie. Dans notre département des Alpes-Maritimes, sur la zone veillée par la gendarmerie nationale, 2 accidents sur 3 impliquent un deux roues motorisé. Dans presque 3/4 des cas, c'est ce deux roues motorisé qui est responsable de l'accident dans lequel il est impliqué.
Yacine a passé son permis moto il y a déjà quelques années.
C'est toujours bon d'avoir une petite piqûre de rappel sur les trajectoires, sur les positionnements de la moto, comment se tenir sur la moto. C'est beaucoup de notions qui sont peut-être oubliées aujourd'hui.
Chaque année à Nice, 400 amateurs de deux roues bénéficient des conseils des motards de la gendarmerie.
Allez, Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice.
Et un peu plus haut, du côté de Lyon, ce n'est plus qu'une question de semaine, l'Olympique lyonnais va passer sous pavillon américain.
Ouais, c'est un changement d'époque, hein, Julien. Quand on pense à l'OL, on pense d'abord à un homme, Jean-Michel Aulas, inamovible président depuis 35 ans. Il le sera pour 3 saisons encore, mais le vrai patron sera américain. John Textor s'engage à prendre 66% du capital. Le futur actionnaire majoritaire n'a pas l'intention de renverser la table dans l'immédiat. Le président Aulas reste donc à son poste. Jean-Luc Boujon.
Une révolution, mais sans renverser la table. Le nouvel actionnaire majoritaire de l'OL n'a pas eu le choix. S'il voulait devenir le big boss, il lui fallait conserver Jean-Michel Aulas, président du club depuis 35 ans.
Je me suis engagé 3 ans minimum avec John. C'était un souhait non seulement des fans, mais aussi de l'ensemble des gens qui participent à ces opérations.
John Textor met donc 500 millions d'euros sur la table pour acquérir 66% du club, plus 86 millions pour acheter des joueurs cet été. Lui qui a fait fortune dans les effets spéciaux pour le cinéma, affiche dans ses ambitions.
Moi, je veux vraiment gagner la Champions League. J'aime pas ces modèles comme le PSG. Je pense qu'on peut arriver à les battre. J'espère qu'on va pouvoir gagner une Champions League, une Ligue des Champions. J'espère qu'on va pouvoir rêver de ça.
Et au passage, un petit tacle pour le PSG, histoire de se mettre les supporters lyonnais dans la poche. Des supporters satisfaits, mais un peu méfiants tout de même, à l'image de Philippe.
On le connaît pas très bien. Ça peut faire peur et à la fois, on peut être plein d'espoir. Il y a eu des clubs en France, ça s'est très mal passé. Puis d'autres où ça s'est bien passé. Donc on espère que ça se passera bien pour nous. L'argent ne fait pas tout et il faut qu'il y ait une très bonne structure autour de ça.
Et c'est vrai qu'hier, John Textor a beaucoup parlé business mondial, y compris lorsqu'il s'agissait de répondre à des questions purement sportives. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Léon Marchand confirme son éclosion au championnat du monde de natation, 3 jours après son titre mondial sur 400 mètres 4 nages. Et bien le Français a pris la médaille d'argent hier à Budapest sur le 200 mètres papillon.
Et on le félicite. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet. Thierry Léger, bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est dans la 7e étape du Grand National du Trot que va se courir ce Quintet. Une course au trot attelé qui réunira 15 trotteurs âgés de 5 à 10 ans. répartis sur deux poteaux différents de départ, 2950 et 2975 mètres. Priorité aux plus jeunes, notamment les 6 ans, avec Gently de Muse, le numéro 4, en plein épanouissement, et titulaire de 4 victoires lors de ses 7 dernières courses, et aux limites actuelles qui restent à déterminer, avec Gangster du Vallon, le numéro 15, qui se recommande d'une probante deuxième place le 14 mai sur l'hippodrome de Caen, dans le prix des Ducs de Normandie, face à une opposition certainement supérieure à celle de cet après-midi. Derrière ces deux priorités, je vous recommande les numéros 8, Douglas Dupont, idéalement engagé à la limite du recul des 25 mètres et pour lequel on a fait appel au crack driver Eric Raffin pour optimiser ses chances. 14 Herdelios, actuellement leader de ce GNT, le Tour de France des trotteurs. Et 11 Fakir Mérité, vainqueur de cette même épreuve l'an dernier. Enfin les numéros 5, Fast Domino, 3 Freno et 2 Fantasia de Ligny compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 15, 8, 14, 11, 5, 3 et 2.
Merci beaucoup Thierry Léger. Les pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europe1.fr.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
C'est François qui est mort au milieu de...
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Et c'est le jour où, à présent, les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
C'était un 22 juin, comme aujourd'hui, le 22 juin 1962. Stevie Wonder sortait son premier single. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Ambline.
Stevie Wonder, c'est l'homme aux 80 millions de disques vendus dans sa carrière. Et cette carrière, justement, elle débute de manière fulgurante. Alors qu'il est tout juste adolescent, il a seulement 12-13 ans.
Oui, il est repéré aux États-Unis alors qu'il joue de l'harmonica sur une bouche de métro à New York. Il se produit très vite à Harlem avec un harmonica entre les mains. On le présente comme un petit génie. Juste après la parution de son premier titre, Stevie Wonder est sur Europe numéro 1. On est en 1965, le voilà fluet sur la scène dans l'émission Musicorama.
Voici conduit en scène par son chef d'orchestre Stevie Wonder en costume gris clair, lunettes noires. Des lunettes qui, comme pour Ray Charles, et pour la même raison, sont inséparables de sa personnalité.
Now I want everybody to clap your hands in this groove.
Et le petit prodige de 15 ans montre de quoi il est capable avec son harmonica, on l'entend ici. C'est un enfant miraculé, né prématuré dans une famille modeste, devenu aveugle en couveuse et qui va bouleverser le monde de la musique. Ses premiers titres sont déjà d'énormes succès, restant plusieurs semaines en tête des ventes. Stevie Wonder réalise ce mélange entre le rock et la soul et il sera au sommet de son art dans les années 70.
Le chanteur afro-américain, Laure, est aussi un artiste engagé.
Oui, il milite pour que soit instauré un jour férié à la mémoire du révérend Martin Luther King. Et il sera entendu en 1986, le président Reagan introduit dans la législation américaine le troisième lundi de janvier comme jour férié. Il est aussi à Washington, Stevie Wonder, en 1995, pendant cette marche de centaines de milliers d'afro-américains contre la suprématie des blancs aux États-Unis, comme le disent les manifestants.
Le moment le plus émouvant, ce fut l'intervention du chanteur noir, aveugle et célèbre, Stevie Wonder.
Me for you.
Nous sommes là par la volonté de Dieu, lance Stevie Wonder, et pas par la volonté de tel ou tel leader.
Trois ans plus tôt, en 1992, Pascal Clarke le rencontre pour Europe 1 à Paris, juste avant un concert au Zénith. Et quand il ne joue pas, Stevie Wonder est tout simplement avec ceux qu'il aime.
Music is like a hobby to me, as it's probably amazing.
La musique est comme un loisir pour moi. Aussi incroyable que cela puisse paraître, compte tenu du temps que j'ai déjà passé dans le métier. Mais j'aime aussi être avec mes enfants, mes amis, et être aussi avec ma chérie.
Stevie Wonder a aujourd'hui 72 ans.
Merci beaucoup Laure d'Autriche et à demain pour un nouveau jour où sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, on va parler des soldes d'été qui commencent aujourd'hui.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Excellent début de matinée à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h et bientôt 45 minutes et c'est le coup d'envoi aujourd'hui des soldes pendant la plupart des départements. Nous pourrions être nombreux à nous lancer dans la chasse aux bonnes affaires et ce pendant les 4 prochaines semaines. On en parle, Ombline, avec votre invitée, la fondatrice du cabinet d'études de marché, Madame Benchmark.
Bonjour Elisabeth Conny.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes experte de la grande distribution. Cette période de solde s'ouvre Alors que l'inflation ne cesse de progresser, plus 5,2% au mois de mai selon l'INSEE, et que le pouvoir d'achat des Français baisse, on parlait un tout petit peu plus tôt de chasse aux bonnes affaires. Est-ce que les consommateurs vont en profiter ?
Alors, s'ils ont eu tendance effectivement à être un peu économes, mais qu'ils ont quand même des besoins, à savoir des enfants qui grandissent, qui vont bientôt changer de classe et il faut racheter des vêtements pour passer l'été. S'il y a des vêtements qui sont usés, si, etc., si de toute façon c'est obligatoire, à un moment il faut aller se rhabiller. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont attendre les soldes pour pouvoir trouver encore en commençant très tôt des tailles en quantité suffisante et des modèles pour pouvoir profiter avec des rabais qui feront sans doute au moins 50% dès demain.
Oui, ça commence tout de suite très haut d'un point de vue des promotions.
Oui, depuis quelques années, en fait, les enseignes jouent vraiment le début des soldes avec un taux très haut. Par exemple, 70% pour Gémeaux et Kiabi. Kiabi a déjà confirmé qu'il commencera à 70%. Pour certains, on aura l'information entre 6h du matin et 8h du matin, juste avant l'ouverture des magasins.
Avec une inflation qui progresse, on l'a dit, les inquiétudes sur le pouvoir d'achat, la mise en question de la surconsommation et les préoccupations écologiques. Est-ce que vous avez le sentiment, Elisabeth Conny, que les Français ont la tête à faire les boutiques ?
C'est sûr que ça pose question. De toute façon, le marché du textile, depuis 12 ans à peu près, est un marché en baisse. C'est-à-dire qu'on a beau réduire en fait le prix des produits, eh ben, la demande ne progresse plus. Donc effectivement, on a une consommation en partie un peu plus raisonnable. Néanmoins, on a quand même un secteur de la fast fashion qui fournit quand même beaucoup de vêtements et on a quand même des armoires bien remplies, même si pendant les différents confinements, les Français ont eu tendance un petit peu à faire le tri, à vider et à se poser quelques questions sur le nombre d'habits qu'ils avaient par rapport au nombre de jours dans l'année.
Et entre les promotions toute l'année, justement, les ventes privées qui se multiplient, à force de voir des prix barrés, des prix en baisse, les soldes perdent-ils un petit peu de leur attrait ?
Oui, c'est vrai que les soldes sont en concurrence avec les opérations de type Black Friday, vente privée, mais c'est quand même un petit peu différent. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de revente à perte en France en dehors de la période des soldes. Et puis les ventes privées, par exemple, c'est réservé forcément aux personnes qui ont un compte ou une carte de fidélité. Et c'est pour ça, en fait, que les soldes gardent quand même de l'attrait, parce qu'au bout d'un moment, quand on va changer de saison et qu'il faut liquider les stocks, eh ben, les distributeurs sont prêts à faire de très gros taux pour ne plus avoir de produits sur l'étagère.
Alors justement, vous parlez de liquider les stocks du côté des commerçants. Est-ce que ça veut dire que ces stocks sont trop importants, trop de commandes de produits neufs qu'il faut ensuite brader ?
Oui, alors c'était un des mots du secteur pendant pas mal d'années, c'est-à-dire beaucoup trop produire et puis finalement malgré Black Friday, soldes, ventes privées et autres promotions, il en restait toujours un petit peu 15% sur leurs bras. Aujourd'hui en fait, grâce à l'analyse des data et l'informatique, les prévisions sont beaucoup plus affinées et il y a certaines enseignes qui arrivent vraiment même à faire des prévisions qui sont basées sur la consommation de chacun des magasins parce que la consommation de t-shirts ne commence pas au même moment en France, les typologies de clientèle dans les quartiers n'ont pas forcément les mêmes goûts et du coup graduellement ils arrivent à produire moins et à vendre tout autant.
Vous évoquiez les enseignes de fast fashion et pour revenir sur ces prix cassés, les consommateurs sont tentés d'acheter des vêtements, beaucoup de vêtements, notamment des vêtements dont ils n'ont pas besoin. Les soldes ne servent-ils pas de catalyseur à la surconsommation quand on sait que la mode est l'une des industries les plus polluantes du monde? Ça va à l'encontre aujourd'hui des enjeux écologiques?
Tout à fait. Le grand enjeu aujourd'hui des enseignes, la prise de conscience, elle est là dans les grandes enseignes. Ils savent très bien qu'ils ont un modèle qui fonctionnerait si on avait un univers infini, mais que avec la rareté des ressources, les problèmes d'émissions carbone, ils doivent se remettre en cause. Donc ils sont en transition, ils ont une part de leur offre aujourd'hui qui est beaucoup plus durable. Il y a des rapatriements en fait de production en Europe, voire en France. Alors les capacités de production ne sont pas là pour servir la demande en fait de tous les consommateurs français aujourd'hui, mais il y a une vraie prise de conscience. On utilise moins d'eau pour faire des jeans, on utilise beaucoup plus de polyester recyclé, on essaye de faire remarcher l'industrie du Portugal, de l'Europe, de la France pour fournir les rayons. Donc il y a une prise de conscience et on va vers une mode durable, mais c'est un processus très long. Les équilibres sont à retrouver pour ces différentes chaînes, mais clairement, l'état d'esprit est dans cette direction.
La prise de conscience, elle est aussi du côté des consommateurs qui achètent des vêtements d'occasion de plus en plus. Dans ce contexte où le marché de la seconde main est en plein essor, quel avenir se dessine pour le neuf ?
C'est vrai que l'occasion augmente beaucoup, surtout s'il commence à y avoir une concurrence entre les enseignes sur ce sujet-là, puisque l'idée, c'est pas de vendre de l'occasion pour l'occasion, mais c'est de vendre de l'occasion qui a été bien triée, qui n'a pas de tâches, qui va avoir une vraie seconde vie. Donc, on va avoir une espèce d'augmentation, en fait, de qualité, en fait, sur ces offres de seconde main, qui effectivement progressent plus que le neuf aujourd'hui. Alors, il y a certains prévisionnistes qui disent que la seconde main va égaler, en fait, les ventes de neuf prochainement. L'avenir nous le dira. Le sujet après pour les distributeurs, c'est que quand on revend un pull qu'on a déjà revendu, on le vend pas au prix initial. Donc, si on vend beaucoup plus de pulls, en fait, d'occasion, il y a une baisse de valeur qu'il va falloir compenser avec des meilleures ventes et peut-être des prix plus chers sur les produits neufs. Par contre, il y a un effet très positif, en fait, de l'occasion. C'est que si on se dit que l'occasion est un vrai business, eh ben, on va vouloir produire des pièces de meilleure qualité pour pouvoir mieux les revendre en seconde main.
Merci beaucoup Elisabeth Cogny d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice du cabinet d'études de marché Madame Benchmark. Les soldes d'été démarrent aujourd'hui dans la plupart des départements et ils se dérouleront jusqu'au 19 juillet. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h51 sur Europe 1. Très bonne journée à tous. Le journal permanent, Alban Le Prince.
Et les orages ont encore frappé hier, notamment à Digoin, en Saône-et-Loire. Une partie de la ville de 8000 habitants est dévastée, selon les mots du maire. Des grêlons de la taille de balles de ping-pong ont fait beaucoup de dégâts, notamment sur les toitures et les voitures. Ce matin, 9 départements sont toujours en vigilance orange aux orages en raison de l'arrivée d'un nouvel épisode dans le sud-ouest. Nouvelle journée de consultation pour Emmanuel Macron qui reçoit les leaders de partis politiques à l'Élysée depuis hier. Selon le communiste Fabien Roussel, le président envisagerait de créer un gouvernement d'union nationale. Et puis nouvelle médaille aux mondiaux de natation pour la France. Après l'or, Léon Marchand a remporté l'argent hier en 200 mètres papillon. Ce soir, il part grand favori pour le 200 mètres 4 nages.
Allez, on part au cinéma.
Bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Ambline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Laurie, deux sorties incontournables cette semaine. On commence par celle qui va, on dirait, réunir petits et grands.
Eh oui, c'est Buzz l'éclair, le dernier né des studios d'animation Disney-Pixar. Alors tout le monde se souvient d'un Toy Story du petit garçon Andy qui a un jouet préféré, c'est son astronaute Buzz l'éclair, le ranger de l'espace. Eh bien, suite au succès de la saga, Buzz l'éclair a enfin le droit à son propre film dérivé de Toy Story. C'est ce qu'on appelle un spin-off. Alors un mot sur l'histoire, après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, ça fait loin, Buzz l'éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Et pour cela, il va pouvoir compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses, mais un peu bracassées, faut le dire. Il y a Izzy, une jeune femme qui veut faire ses preuves, Mo, un homme maladroit, et Darby, la dame âgée au caractère bien trempé, sans oublier la mascotte du film, son adorable petit chat robot Sox.
Prêt, capitaine Leclerc ?
Plus que jamais.
Vers l'infini.
Et au-delà. Journal de bord Buzz Leclerc. Par ma faute, nous voilà tous coincés sur cette étrange planète. Je dois réparer mon erreur.
Bonjour Buzz. Je m'appelle Sox. Ma mission, c'est de t'aider et je ne renonce jamais à ma mission.
Bip, 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 bip. Allons-y.
Tu entends ça?
Moi, j'entends rien.
C'est clairement une violation de liberté conditionnelle.
Je suis poursuivi par le plus monstrueux des robots.
Alors c'est très réussi pour plusieurs raisons. Déjà l'histoire qui est originale, qui regorge de rebondissements. Et puis le rythme, hein, y a beaucoup d'action, de l'aventure, des effets spéciaux qui sont somptueux. On en prend plein les yeux, on reste scotché à son siège comme si on était dans une attraction du parc Disney pendant 1h40. Et enfin, c'est vraiment un Pixar plein d'humour. Les voix françaises que vous avez entendues dans la bande-annonce sont très efficaces, comme celle de Michael Gregorio qui double l'adorable chat robot Sox, ou encore Chantal Latsou pour Darby et Thomas Sisley pour le maladroit Mo. Bref, ce sont des personnages qui apportent beaucoup de drôlerie au film. Et puis surtout Buzz l'éclair qui a une évolution tout au long du film avec la voix de François Civil qui est plein de douceur, plein d'émotions. Vraiment, c'est un gros gros coup de cœur.
Et puis aujourd'hui, le king du rock'n'roll envahit les salles de cinéma.
Eh oui, bah voilà, je laissais la musique démarrer. Je vous préviens, après le film, vous aurez envie de réécouter l'intégrale des chansons d'Elvis Presley, puisque ça y est, Elvis, le biopic signé Baz Luhrmann, sort enfin au cinéma après avoir fait sensation au dernier festival de Cannes où il était présenté hors compétition. Il débarque enfin dans nos salles obscures, un film qui retrace l'histoire de la légende du King et sa relation professionnelle, personnelle, aussi assez conflictuelle avec son manager, le colonel Parker, joué par Tom Hanks. Un Tom Hanks absolument incroyable dans le film, qui joue ce personnage manipulateur, détestable, mais visionnaire, puisque c'est lui qui a fait d'Elvis la star qu'on connaît aujourd'hui.
Je souhaiterais être votre manager, monsieur Presley. Vous êtes prêt à vous envoler ?
Je suis prêt. Prêt à m'envoler.
Demain, toute l'Amérique ne parlera que d'Elvis Presley.
Monsieur Presley, essayez de ne pas bouger autant pendant les crises.
Si je peux pas bouger, je peux pas chanter.
Sans moi, il n'y aurait pas de Elvis Presley.
Tom Hanks est méconnaissable, hein, je le disais, il s'est grimé avec des prothèses, il a transformé sa voix pour les besoins du film. C'est vraiment un tourbillon musical, une mise en scène effrénée, colorée. Musicalement, c'est très réussi. Baz Luhrmann, ça reste le maître en la matière. Je rappelle qu'il avait réalisé Gatsby le Magnifique ou encore Moulin Rouge. Il nous emmène au cœur des années 50, 60, 70 aux États-Unis. C'est spectaculaire, c'est une vraie fresque. Et puis surtout, la prestation d'Austin Butler qui s'est préparé 2 ans pour le rôle qui est absolument incroyable.
Elvis, donc, de Baz Luhrmann et Buzz l'éclair, le nouveau Pixar, 2 films à voir en salle dès aujourd'hui. Merci beaucoup Laurie Choleva. Et à samedi pour votre émission Clap entre 14h et 15h sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, dans un instant la météo, le journal et un scénario noir, Julien.
Un scénario qui a pris de l'épaisseur ces derniers jours, celui d'un hiver sans gaz russe. Et pour cause, Moscou a depuis la semaine dernière réduit drastiquement ses exportations vers l'Europe de l'Ouest. Depuis que la France, l'Allemagne et l'Italie notamment ont affirmé soutenir la candidature de l'Ukraine à l'Union Européenne. Plus un mètre cube n'arrive dans nos gazoducs. D'où cette question, peut-on passer l'hiver, a fortiori si le Kremlin venait à fermer totalement le robinet, ce qu'il n'a pas encore fait. Où en sommes-nous de nos stocks? Faut-il dès maintenant limiter notre consommation? On en parle dans 10 minutes avec Thierry Bros, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions énergétiques. Et puis votre partition ensuite, Omblin.
1956, un phénomène bouleverse l'Amérique. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Un biopic sur Elvis sort aujourd'hui. On en parlait à l'instant avec Laurie Choleva. La partition d'Elvis Presley et de son impresario, colonel Parker, dans 20 minutes.
Anissa Dadi, ça va encore tonner fort aujourd'hui.
Oui, on a déjà de nombreux impacts de foudre là actuellement ce matin entre la Nouvelle-Aquitaine, entre les Pays de la Loire et le Pays Basque. Des orages actuellement dans la vallée du Rhône. On a encore quelques orages qui traînent et qui sont localisés sur la Bourgogne. Aujourd'hui sera la journée la plus orageuse de la semaine avec des orages pour tout le monde sur les 2/3 du pays. 2 zones au sec et ensoleillé, la Corse et le Nord, les Hauts-de-France, la Normandie, le bassin parisien restent au sec, partout ailleurs c'est très perturbé. Les températures, 20 à 25 degrés au nord et à l'ouest, 27 à Paris. Il va faire chaud encore dans le sud jusqu'à 34 degrés en Corse.
Merci beaucoup Anissa Dadi, vous restez avec nous, on vous retrouve dans une minute. Vous écoutez Europe 1, nous sommes le mercredi 22 juin. Il est 6h. Et à la une, la liste des dégâts s'allonge. Le centre et l'est du pays à leur tour sous les orages, de fortes pluies, de la grêle qui ont aussi perturbé la fête de la musique hier soir. Au pied du mur, Emmanuel Macron cherche la porte de sortie. Le président envisagerait un gouvernement d'union nationale pour éviter le blocage. Qu'en disent les électeurs de la droite? Reportage dans un fief LR. Et puis, les chiffres inquiétants de la sécurité routière. Le nombre de cyclistes tués sur les routes a quadruplé le mois dernier. Et ce n'est que la faute des automobilistes.
Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Ce n'est pas que la faute des automobilistes et c'est le journal de Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. De plus en plus de Français sinistrés à cause des orages. Peut-être vous, après le sud-ouest, le centre et l'est du pays frappés par la foudre et la grêle hier soir. Encore des toitures arrachées, des voitures saccagées et des récoltes détruites. 9 départements en vigilance orange, de la Vienne jusqu'aux Landes. Comme promis, vous êtes avec nous, Anissa Dadi. Et Anissa, ce que vous nous expliquez ce matin, c'est que nous traversons peut-être le mois le plus électrique de l'histoire des relevés météo.
Oui, alors le mois de juin est traditionnellement très orageux. Le dernier record date de l'année dernière où on avait enregistré plus de 170 000 impacts de foudre au sol. Et c'était l'Île-de-France qui était la région la plus touchée. Avec cette vague orageuse que nous traversons en ce moment, ce record devrait être battu. D'ailleurs, au moment où je vous parle, à 6h01, nous enregistrons 3500 impacts de foudre dans la dernière demi-heure. Donc vous le constatez, c'est très électrique. D'ailleurs, vous l'avez compris, nous n'en avons pas fini aujourd'hui avec les orages. Ce mercredi sera la journée la plus orageuse de la semaine. Il va falloir s'habituer à ces orages très électriques qui sont la conséquence des périodes de canicule où l'air très chaud au sol rencontre une masse d'air très froide en altitude. Du coup, ça donne des orages violents avec des phénomènes assez peu fréquents comme les tornades qui, samedi, on s'en souvient, ont fait une victime sur les côtes du Calvados.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. J'ajoute que les orages ont aussi gâché la fête de la musique hier soir. Festivités annulées par exemple à Guéret, Rodez et Clermont-Ferrand.
6h02 sur Europe 1. Un compromis est-il encore possible pour éviter le blocage? Emmanuel Macron poursuit les consultations avec les leaders des formations politiques.
Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts et Adrien Quatennens du côté de la France Insoumise. Hier, Fabien Roussel était reçu à l'Élysée. Un entretien où le chef de l'État aurait envisagé un gouvernement d'union nationale, option rejetée par le leader communiste.
Scénario aussi compromis du côté des LR. Le président du parti de droite, Christian Jacob, refuse une alliance avec la majorité.
Oui, mais qu'en disent les électeurs? Ceux de Dreux, par exemple, en Eure-et-Loire, ont choisi un élu LR dimanche, Olivier Marleix. Alors, quelle ligne doit-il adopter à l'Assemblée nationale, lui et les 60 députés LR? Question posée par notre reporter Victor Pourchet.
Dreux a l'habitude des victoires écrasantes de la droite. C'est la troisième d'Olivier Marleix dans cette circonscription. Vanessa est une de ses électrices fidèles et elle n'est pas pour l'obstruction.
Je pense qu'il faudrait être intelligent et effectivement ne pas bloquer et faire au cas par cas. La politique, c'est quoi? C'est pour le bien public, hein, voilà. Hein. Quand on va en politique, normalement, c'est pour ça. Hein. Après, il y a aussi de la tactique quand même.
Éric aussi a toujours voté pour le député LR. Sans être inquiet, il s'attend à quelques contretemps sur des mesures qu'il soutient.
Il y a des trucs qui vont être bloqués. C'est sûr qu'au départ, bon, la retraite à 65 ans, tout ça, bon, ça... Bon, on va attendre certainement pas mal de temps, quoi. Mais enfin, moi, je pense que ça va le faire.
S'ouvrir au débat est plus urgent, selon Charles. Cet ancien élu local socialiste a voté Olivier Marleix sans aucun problème.
On est dans une période quand même difficile sur un certain nombre de points. On a parlé de l'environnement, on peut parler de la situation économique. Pour moi, personnellement, ça incite à essayer de trouver des solutions qui rassemblent plutôt que divisent.
Se rassembler autour de thèmes que ses électeurs identifient comme Macron compatibles, le déficit public, le travail et la sécurité. À Dreux, Victor Pourchet, Europe 1.
Et les Républicains choisissent ce matin leur chef de file à l'Assemblée nationale. Même programme du côté de la majorité. Les macronistes devront ensuite désigner leur candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. Un nom qui sera soumis au vote de l'ensemble des députés mardi prochain. 6h04, bras de fer entre les cheminots et les compagnies ferroviaires au Royaume-Uni. Les négociations reprennent ce matin après une première journée de grève hier. L'une des mobilisations les plus suivies depuis les années 90 pour réclamer des embauches et des hausses de salaire face à une inflation galopante dans le pays, autour de 10%.
La hausse est plus limitée chez nous, 5,6% cette année selon la Banque de France.
Oui, mais de quoi renier quand même peut-être votre budget consacré au solde d'été. Coup d'envoi de l'opération ce matin et pour 4 semaines jusqu'au 19 juillet.
Vous nous écoutez peut-être à vélo, direction le travail. Restez vigilants, la mortalité des cyclistes sur la route a quadruplé le mois dernier.
Oui, 22 morts en mai contre 6 à la même période en 2019. Alors certes, il y a plus d'usagers, mais pour la sécurité routière, ces chiffres sont très préoccupants. Le comportement des automobilistes est à revoir, mais celui des cyclistes aussi. Démonstration à Paris avec Arthur Pereira.
Pas de casque sur la tête, musique dans les oreilles. Comme Pierre, beaucoup de cyclistes parisiens tracent la route, peu importe la couleur du feu.
Je grille presque tous les feux, ouais. C'est assez indécent. Ouais. Non, je me suis pris quelques amendes. Je m'en suis pris 3 là, récemment, sur les 2 dernières années. Je grille un feu à côté de la police, voilà.
Gants de protection, gilet fluorescent sur le dos et casque noir sur la tête. Denis et Didier, eux, prennent toutes les précautions.
Quand on fait du vélo, c'est très important. Bah déjà pour être bien vu par rapport aux voitures, les motos, tout ça.
Ça diminue le degré de gravité en cas de chute.
Assis sur son vélo électrique, Eliès, la trentaine, est nettement plus vigilant depuis son dernier accident.
Un camion qui avait grillé un feu, qui prenait le tournant, en fait il m'a pas vu arriver, je l'ai pas vu arriver, pour moi c'était vert. Et je l'ai pris de plein face en fait, et j'ai basculé par-dessus mon vélo, heureusement que j'avais mon casque, je suis tombé de la tête en premier. Et c'est à ce moment-là que je me dis en fait, ok, s'il n'y avait pas de casque, je n'aurais pu y passer en fait.
Alors que la pratique de la bicyclette est en plein boom, le casque, lui, n'est obligatoire que jusqu'à 12 ans. Le mois dernier, 22 cyclistes ont trouvé la mort sur les routes de l'Hexagone.
Le reportage d'Arthur Pereira à Paris.
Prudence donc si vous prenez la route, que ce soit à deux ou à quatre roues. Merci beaucoup Romain Noquet pour ce journal.
6h06, le journal des sports avec Martin Lange et avec un nom à la une ce matin, Léon Marchand, la nouvelle pépite de la natation tricolore.
Oui, après son titre il y a 3 jours sur 400 mètres 4 nages, le jeune Toulousain de 20 ans s'est offert la médaille d'argent hier sur 200 mètres papillon. Nouveau record de France à la clé dans une discipline qu'il découvre à peine. Et le plus fort dans tout ça, c'est que juste après sa médaille, il a réussi à se hisser en finale du 200 mètres 4 nages dont il sera l'immense favori aujourd'hui. Un vrai marathon aquatique, écoutez.
On avait tout préparé, donc ça s'est fait plutôt facilement, simplement. Je suis allé récupérer direct après ma course. J'ai pas changé de combi, je suis allé direct sur le podium. Sur le podium, j'essaie déjà de penser à la prochaine course. Donc voilà. Après, j'ai eu 5 minutes entre chaque pour me repréparer.
Léon Marchand chez nos confrères de France Télévisions, à suivre aussi aujourd'hui la finale du 100 mètres nage libre avec le Français Maxime Grousset.
On passe au football, Martin, et c'est officiel. Lyon va passer sous pavillon américain.
Oui, John Textor, 56 ans, va devenir l'actionnaire majoritaire de l'OL. Il a été présenté hier au Groupama Stadium. Son arrivée doit permettre au Gaune d'entrer dans une nouvelle dimension, selon Jean-Michel Aulas.
On va avoir plus de moyens pour recruter. Oui, on va concurrencer le PSG et les autres le plus rapidement possible. L'objectif, c'est de revenir au plus haut niveau dans le championnat et, comme John l'a dit aussi, en Coupe d'Europe.
Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, qui va garder son poste pour les 3 ans à venir.
Un mot de cyclisme féminin, Martin, avec là aussi un changement de dimension.
Oui, la FDJ, la première équipe professionnelle française, aura dès le mois prochain un co-sponsor, Suez. Un vrai changement de braquet pour la formation dirigée par Stéphane Delcourt, qui disputera le tout premier Tour de France féminin au mois de juillet.
Ça nous permet de jouer avec les meilleures équipes au monde. Et là, on va augmenter l'aventure pour être capable de tenir dans le temps avec des adversaires qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus gros.
À la page vélo, toujours une bonne nouvelle, Julien Alaphilippe disputera les championnats de France ce week-end. Le champion du monde qui n'a toujours pas confirmé sa présence sur le Tour.
Enfin, en bref, Martin.
Deux nouvelles médailles au championnat d'Europe d'escrime, l'or pour les filles de l'épée et l'argent pour les fleurettistes hommes. Et puis du basket, match 4 des finales du championnat de France ce soir. Monaco a l'occasion de conclure face à l'ASVEL.
Le journal des sports de Martin Lange, merci.
Vous restez avec nous dans un instant. Cette question, peut-on passer l'hiver prochain sans gaz russe alors que Moscou a commencé à fermer le robinet? Réponse dans une minute avec Thierry Brosse, spécialiste des questions énergétiques. A tout de suite.
5h, 6h30. Europe Matin.
Il est 6h09. Votre invité ce matin, Julien, est professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques.
Bonjour Thierry Brosse.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin alors que se dessine un scénario noir, celui d'un hiver sans gaz russe, puisque Moscou a annoncé la semaine dernière une réduction drastique de ses exportations avec effet plus ou moins immédiat. Depuis quelques jours, nous ne recevons plus un seul mètre cube par gazoduc, soit une baisse de plus de 60% de nos livraisons de gaz russe. D'où ma question, Thierry Brosse. Est-ce qu'on va passer l'hiver si le Kremlin continue de jouer ainsi avec le robinet ?
Malheureusement, non, puisque ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas se passer complètement de gaz russe. Grosso modo, ce qu'on peut imaginer, que les Russes pouvaient baisser leurs approvisionnements de 70% et on était capable, ou le marché était capable, de trouver des alternatives. Ce qui se passe aujourd'hui, et vous voyez que le marché est très résilient. Par contre, s'il coupe de plus de 70%, et donc vous voyez qu'on est assez proche de ces niveaux-là, à ce moment-là, la sécurité d'approvisionnement n'est pas garantie, puisqu'il n'y a plus les molécules. La sécurité d'approvisionnement, c'est la capacité à produire du gaz quelque part ailleurs et à l'amener en Europe. Et ces infrastructures-là manquent.
C'est une première, cette rupture unilatérale des contrats ?
Alors, oui pour la France. Par contre, l'utilisation de l'arme gazière, non. Puisqu'en fait, les Russes l'utilisent grosso modo depuis l'année dernière. L'année dernière, ils avaient déjà décidé de ne plus nous vendre du gaz supplémentaire. Ils avaient aussi décidé de ne pas remplir les stocks allemands. Et puis, vous avez vu, en mars, ils ont décidé de couper la Pologne, la Bulgarie. Donc, nous sommes face à des diktats du Kremlin et nous devons essayer de réagir le mieux possible. Pour le moment, le marché a fait le job, si je peux dire.
Cet énième diktat, pour reprendre le terme que vous utilisez, c'est la réponse de Moscou à la promesse faite la semaine dernière à Kiev par Emmanuel Macron, Mario Draghi et Olaf Scholz de reconnaître à l'Ukraine son statut de candidat à l'Union européenne. C'est un coup de pression ?
Peut-être, ça je ne suis pas au Kremlin, mais c'est aussi un moyen d'être en capacité d'utiliser l'arme gazière pendant plus longtemps. Puisque en baissant les flux il y a quelques jours, il complique la tâche que nous avons, nous, de remplir nos stockages. Et donc, ils remettent le gaz comme arme gazière pendant encore quelques mois.
C'est une manière aussi de faire pression sur les 27 qui vont devoir voter demain et après-demain en faveur ou non de cette candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est une manière de leur mettre la pression, de leur dire « si vous votez pour, votre hiver sera glacial ».
il y a des chances. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que notre objectif à nous, Européens, c'est de sortir de la dépendance au gaz russe. Et donc, cette arme gazière, elle ne sera plus utilisée quand nous serons complètement indépendants du gaz russe. La question, c'est quand est-ce qu'on peut le faire ? 2022, c'est très compliqué. 2023, ça sera peut-être jouable. Mais malheureusement, comme nous étions trop dépendants du gaz russe, nous sommes dans cette incapacité à sortir du gaz russe immédiatement.
Ce sera un scénario catastrophe pour l'Allemagne et l'Italie qui sont, je crois, autrement plus exposés que nous au gaz russe ?
Alors, pas tout à fait, puisque en fait, une des grandes réussites de la Commission européenne, des dernières commissions européennes, c'est ce marché unique de l'énergie qui est souvent décrié. Ce marché
qu'on est censé réformer.
Mais ce marché unique, il a permis au gaz d'aller d'est en ouest, mais aussi d'ouest en est, et du nord au sud et du sud au nord. Et donc, on est en capacité de mieux, ensemble, gérer cette difficulté. Alors, pour l'Allemagne et l'Italie, ça sera une difficulté supplémentaire parce qu'en plus, ils avaient du gaz russe à bon marché. Donc, ils vont devoir acheter du gaz s'ils en trouvent et à des prix bien plus élevés. Donc, leur industrie va encore plus souffrir.
Est-ce que chez nous, en France, on avait plus ou moins anticipé ce scénario, cette baisse des livraisons ? Vous parliez de nos stocks, de nos réserves. Où est-ce qu'on en est du remplissage ?
Alors, la politique énergétique française, elle était fondée sur la diversification des approvisionnements. Alors, la diversification des approvisionnements, c'est un concept churchillien. C'est Churchill qui l'avait mis en place. Et donc, on était en capacité d'avoir des approvisionnements différents. Et face à cette coupure, vous voyez, nous ne sommes pas trop affectés. Et nous avions aussi plus de stockage que d'autres pays. Alors, nos stockages aujourd'hui en Europe sont pleins à 55%, en France un peu plus. Alors, est-ce que c'est bien ou mal ? Si on compare à l'année dernière, je vous ai dit, les Russes avaient utilisé l'arme gazière. Malheureusement, l'année dernière, nos stocks étaient pleins qu'à 45% et l'hiver a été compliqué. 2020, année Covid, les stocks étaient pleins à 78%. Donc, oui, on est en bonne voie de remplir nos stockages. Malheureusement, ce que je vous ai évoqué, les Russes nous compliquent la tâche.
Oui, mais nos sources d'approvisionnement à l'heure actuelle, en dehors des Russes, c'est le GNL, c'est le fameux gaz naturel liquéfié qui nous provient principalement des États-Unis, c'est ça ?
Alors, pas tout à fait. Il y a du gaz d'Algérie, il y a du gaz de Norvège, il y avait du gaz des Pays-Bas, mais les Pays-Bas ont décidé d'arrêter leur production. Et il y a du gaz naturel liquéfié qui, lui, vient d'à peu près partout. Il vient du Qatar, il vient des États-Unis.
Et même d'Israël, je crois.
Alors, pas encore. Il vient d'Israël via l'Égypte. Mais encore une fois, le gaz naturel liquéfié, c'est une matière première que l'on appelle fongible. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre gaz sur un bateau, on ne peut pas utiliser d'armes gazières contre le gaz naturel liquéfié.
Vu l'imprévisibilité de Vladimir Poutine, pour être poli, ne serait-il pas judicieux d'anticiper un scénario d'arrêt total des livraisons de gaz russe, c'est-à-dire de commencer dès maintenant à modifier nos modes de consommation, de nous rationner éventuellement, pour ne pas taper dans ce stock que vous venez d'évoquer ?
C'est effectivement la seule solution pour l'Union européenne, c'est de sortir de cette dépendance, d'avoir 0%, 0 milliards de mètres cubes de gaz russe le plus vite possible. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, nous ne sommes pas en capacité de le faire tout de suite. Mais vous avez raison, il faut essayer d'éduquer nos concitoyens pour consommer moins d'énergie, parce que le gaz, c'est en fait une énergie d'hiver. Le gaz, on le stocke. Et donc, en fait, même en été, ce qu'on peut dire à nos concitoyens, c'est chaque électron que vous ne consommez pas, chaque molécule que vous ne consommez pas, on peut transformer ça en molécule qu'on met en stockage et effectivement être plus résilient. Mais ça sera compliqué.
Quels gestes du quotidien peut-on faire pour éventuellement limiter cette consommation ?
Alors, vous pouvez,
là, à l'heure actuelle, en été.
Vous pouvez baisser la climatisation si vous avez une climatisation. Vous pouvez préparer aussi des investissements pour être en capacité de mieux gérer votre chauffage l'hiver prochain et donc être capable d'avoir un chauffage connecté et de vous dire ben, quand je ne suis pas à la maison, je ne vais pas chauffer. Et puis, il y a d'autres éléments qu'on peut imaginer. L'Agence internationale de l'énergie a mis quelques points. Alors, il y a un point qui n'est pas du tout populaire, c'est celui de baisser la vitesse sur les autoroutes. Alors, évidemment, ça n'impacte pas le gaz, mais ça impacte les énergies et ça impacte le pétrole.
Oui, parce que tout est lié d'une certaine
tout
manière.
Tout est lié. Et puis, si vous avez une voiture électrique, ça fait moins de demandes électriques. Mais vous voyez, baisser la vitesse sur les autoroutes, c'est pas très porteur juste avant ou juste après une élection.
D'ailleurs, ce n'est pas le message, la réduction de notre consommation d'énergie, ce n'est pas du tout le message qui est porté à l'heure actuelle par le gouvernement. On est sur le bouclier tarifaire, sur le transfert du coût, mais pas sur la réduction de notre consommation. Vu que tout est lié, j'en viens à nos réacteurs nucléaires. Plus de la moitié de notre parc à l'heure actuelle est à l'arrêt pour de la maintenance ou des problèmes de vieillissement, de corrosion. Est-ce qu'il faut qu'EDF en relance une partie d'ici l'hiver, en prévision là aussi des tensions qu'il va y avoir sur les marchés de l'énergie ?
Alors, pour les réacteurs nucléaires, c'est une question de sécurité. Donc ça, ça dépend de l'agence qui s'occupe de ça et à l'agence de décider. Par contre, je crois que ce qu'il faut comprendre, et ça, on avait un peu oublié ça, c'est que dans l'énergie, il faut avoir, si je peux me permettre, du gras. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dimensionner des investissements juste pour la pointe. Il faut les dimensionner pour une pointe et pour des éléments qui peuvent se produire. On a vu des réacteurs qui sont à l'arrêt. On voit aussi, du côté américain, une unité de gaz naturel liquéfié qui est aussi à l'arrêt. Donc, il faut intégrer ça dans ce système.
Et on a vu que cet hiver, on a importé à plusieurs reprises du courant venant d'Allemagne, venant d'Italie, etc. Or, si le gaz venait à être coupé, peut-être que nos voisins seraient plus en mesure de nous aider le cas échéant.
Alors, nos voisins ont malheureusement décidé de relancer les centrales à charbon. Et en fait, c'est effectivement ce qui va se produire. On va sortir de la dépendance gazière russe pour aller vers plus de charbon. Et donc, climatiquement, ce n'est pas la bonne solution. Mais encore une fois, on est un peu coincé. Et c'est ça que les Russes utilisent. C'est cette arme gazière.
Dernière question, Thierry Brosse. Quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine, si tant est qu'il y en ait une à court ou moyen terme, on voit difficilement comment on pourrait revenir en arrière à cette situation de dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas acter dès maintenant le démantèlement de tous les gazoducs venant de Russie qui sont d'une certaine manière autant de perfusions dont il va falloir apprendre à se passer.
C'est un des éléments que je porte, effectivement. Je pense en particulier au Nord Stream 2. Je pense que les États, la Commission européenne, devraient donner un signal et dire que ce gazoduc qui n'a jamais utilisé ne sera jamais utilisé et devrait être démantelé le plus vite possible. Parce que je pense aussi que c'est un message vis-à-vis de Moscou. Il faut aussi être en capacité de réagir.
Merci infiniment Thierry Brosse, professeur à Sciences Po, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Excellente journée à vous.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h19, les titres, Alban Le Prince.
Emmanuel Macron poursuit les consultations. Le président reçoit depuis hier les leaders des partis politiques à l'Élysée. Aujourd'hui, il rencontrera l'écologiste Julien Bayou, les insoumis Mathilde Panot et Adrien Quatennens, ainsi que son ancien Premier ministre Édouard Philippe, patron d'Horizon. Emmanuel Macron qui songerait à créer un gouvernement d'union nationale, selon Fabien Roussel, chef du Parti communiste. Coup d'envoi ce mercredi des soldes d'été. Ils dureront jusqu'au 19 juillet. Selon les indépendants de la Fédération nationale de l'habillement, les magasins auraient des surplus de stock allant jusqu'à 30%. Et puis 277 cas de variole du singe en France, selon Santé publique France hier. C'est 94 de plus qu'il y a 6 jours. Pour la première fois, une femme est concernée.
On termine avec votre partition, Ombline, et c'est aujourd'hui que sort en salle le biopic sur Elvis Presley, réalisé par Baz Luhrmann. Laurie Choleva nous en parlait il y a quelques minutes. On y découvre la relation complexe et toxique entre le King et son impresario, le colonel Parker.
Un faux colonel, hein, Julien, mais un vrai businessman, l'archétype du manager sans merci qui a imaginé tous les moyens possibles pour faire fructifier une carrière et surtout... pour faire fortune, cet homme, cet escroc présumé meurtrier, est bel et bien celui qui est à l'origine d'un des plus importants phénomènes musicaux du XXe siècle. Sans le colonel Parker, pas d'Elvis Presley. You know I can be fine, sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true.
Qui est-il, ce colonel Parker ?
Eh bien, figurez-vous qu'il n'existe pratiquement aucun document officiel. On sait aujourd'hui qu'il est un immigré hollandais. Dans son livre de colonel, la journaliste américaine Alana Nash raconte qu'un certain Andreas Cornelis van Keuk, après avoir commis un crime aux Pays-Bas en 1929, embarque sur un paquebot à destination des États-Unis. Il subtilise l'identité d'un passager clandestin jeté par-dessus bord et débarque sous le nom de Tom Parker. Bonimenteur et arnaqueur, Tom Parker travaille d'abord dans des cirques. 10 ans plus tard, on retrouve celui qu'on appelle à présent le colonel Parker, en train de superviser la carrière de musicien country. Un soir du mois de mai 1955, lors d'un concert local à Memphis, dans le Tennessee, il tombe sur une mine d'or. Imaginez des dollars se dessiner à la place de ses pupilles. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. Le jeune Elvis Presley, juste 20 ans, se produit devant un public de jeunes filles en transe.
Et cette hystérie n'échappe pas au colonel Parker.
Il va tout faire pour devenir son manager, en commençant par amadouer ses parents. Il se trouve qu'il a ses entrées dans l'une des maisons de disques les plus influentes du pays, RCA. Le petit gars de Memphis s'apprête à devenir la plus grande star des États-Unis.
Et ce titre, Heartbreak Hotel, est numéro 1 en avril 56, le premier d'une très longue série.
Oui, Elvis Presley bat des records et remplit le tiroir caisse. 22 millions de dollars gagnés en quelques mois. Il remplit surtout les poches de son impresario. Au lieu des 10% habituels, le colonel Parker prend 25% de ses revenus. Il ira jusqu'à la moitié. Il va contrôler le chanteur, refuser pour lui toutes les demandes d'interview, en faire un produit marketing. Lorsqu'Elvis Presley est appelé à l'armée, Parker lui recommande de faire son devoir, une façon de garder la main sur lui.
Pourquoi Elvis Presley accepte-t-il la présence et la manipulation d'un tel tyran ?
Voilà une question que tout le monde se pose depuis plus de 60 ans. Sans doute parce qu'il n'avait aucune envie de s'occuper de ses finances, de sa carrière et de toute autre chose que la musique. Sans doute aussi parce que le chanteur avait très peu confiance en lui, influençable et effrayé à l'idée que son règne s'arrête. Chaque faiblesse du King était savamment exploitée par le colonel Parker.
À son retour du service militaire en 1960, le colonel Parker décide de faire d'Elvis Presley une star de cinéma. Ouais,
grossière erreur, héros de film rentable mais médiocre, sa carrière va progressivement s'étioler. En 1964, les Beatles, suivis des Rolling Stones, délogent le King de son trône. You ain't nothing but a hound dog. En 1956, Elvis Presley qui s'empare de la couronne du roi du rock'n'roll dans le nouveau film Elvis de Baz Luhrmann. Aujourd'hui en salle, le comédien Austin Butler prête ses traits au chanteur, tandis que le mystérieux et parasite colonel Parker est incarné par Tom Hanks.
Le King, croqué par la Queen. Ombline, merci à vous. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.